VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, il est 19h30 temps universel, Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 23 octobre 2017, Morgane Guerriec en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, République démocratique du Congo, des militants d'opposition venus accueillir Félix Tshisekedi ont été dispersés manu militari à Lubumbashi. Quatre chefs rebelles des forces populaires burundaises ont été arrêtés et il n'y a aucune information sur le lieu de détention. James Mattis, patron du Pentagone, effectue une tournée en Asie et le président Donald Trump lui emboîte le pas le mois prochain. Nous ferons également le point sur la visite en Afrique de Nikki Haley, la représentante américaine à l'ONU. Retrouvez Nicolas Pineau à la fin de ce journal pour les sports et Jacques Aristide pour la Minute Éco, mais d'abord le journal. République démocratique du Congo, des militants d'opposition venus accueillir Félix Tshisekedi ont été dispersés à l'aéroport de Lubumbashi. Le point sur place avec Narval Mabila.
C'est sur le coup des 13h30 que Félix Tshisekedi est arrivé à Lubumbashi par l'aéroport international de Lalouano. C'est un nombre restreint qui l'accueille. Pas de passage. Les forces de sécurité ont placé un checkpoint à la bifurcation entre la route de l'aéroport et la route Likasi. La police est déployée tout le long de la route qui mène vers le centre-ville. Pas d'attroupement. Certaines arrestations sont opérées. Quelques grenades lacrymogènes sont lancées envers les militants qui ont bravé l'interdit à l'arrivée du cortège de Félix Tshisekedi qui était sous escorte policière. Le point de chute, c'est la résidence du coordonnateur du RASOP Tonga, Antoine Gabriel, Kyungwa Kumwaza et Félix Tshisekedi s'adressent à ces quelques militants.
Merci beaucoup pour tous ces efforts que vous avez consentis pour nous accueillir, mon épouse et moi, dans cette ville qui nous est très chère, malgré la répression brutale qui a commencé depuis quelques jours, ça il faut le dire. Il y a même des femmes qui ont été violées parmi celles qui ont été arrêtées à notre permanence. Il y a une maman qui saigne depuis lors. Élire de tels animaux à l'un des quatre sièges au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, c'est quelque chose d'inacceptable parce que nous avons affaire à un régime barbare de gens qui ne connaissent pas ce que sont les droits de l'homme. Le moindre petit rassemblement provoque un déploiement inconsidérable des éléments de la police. Pas du tout notre détermination à chasser Kabila et sa bande de voleurs. Ils préfèrent nos minerais, nos richesses, plutôt que nous, les êtres humains.
Lubumbashi, Narval Mabila, VOA Afrique.
Rwanda, un tribunal a refusé de libérer sous caution l'opposante Diane Rwigara, poursuivie pour falsification de documents dans le cadre de sa tentative de participation à l'élection présidentielle d'août, ainsi que pour incitation à l'insurrection. Nouvelle grève des magistrats au Tchad. Ils revendiquent le financement et l'organisation des élections au Conseil supérieur de la magistrature, le paiement de primes, et le remboursement de 80% de leurs indemnités coupées par le gouvernement pour faire face à la crise financière. Triple attentat suicide au Nigeria, trois femmes kamikazes se sont fait exploser dimanche soir à Maïdougouri, capitale de l'État du Borno. Bilan, 14 morts et 18 blessés. Le Gabon rejette une requête de l'Union européenne pour une enquête internationale sur les violences post-électorales de 2016. Selon le porte-parole du gouvernement, Libreville a déjà saisi de sa propre initiative la Cour pénale internationale. Au Bénin, Sébastien Adjavon, candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, est à nouveau dans le viseur de la justice. Cette fois-ci, il est accusé de faux et usage de faux dans une affaire d'exportation. Plus de 2000 ressortissants d'Afrique subsaharienne ont été arrêtés depuis le 22 septembre en Algérie et expulsés vers le Niger et le Mali. C'est ce qu'indique Amnesty International, dénonçant des arrestations arbitraires et des expulsions massives illégales. Kenya, 20 ambassadeurs dénoncent la détérioration de l'environnement politique avant la présidentielle de jeudi. Les diplomates déplorent notamment des attaques contre les institutions engagées dans le processus électoral, notamment la commission électorale. Soudan, le rédacteur en chef d'un journal indépendant a été condamné à 6 mois de prison pour avoir publié un article accusant la famille du président Omar el-Béchir de corruption. Et Soudan toujours, la Commission européenne annonce une enveloppe de 106 millions d'euros d'aide, indiquant que quelque 4,8 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire dans ce pays. Cette nouvelle aide intervient alors que les agences de l'ONU font face à un manque de fonds à cause de la baisse des dons.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, est arrivée aujourd'hui en Éthiopie. Première étape de son premier voyage en Afrique. Une tournée qui l'amènera au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo, où sa visite est très attendue. Les précisions de Jacques Aristide.
Ce périple africain de Nikki Haley était une promesse du président américain en septembre dernier. Donald Trump se disait profondément préoccupé par les millions de vies en danger en RDC et au Soudan du Sud. Outre des entretiens avec les autorités des pays visités, des responsables de l'Union africaine et des représentants de l'ONU, l'ambassadrice américaine a prévu de rencontrer des hommes, femmes et enfants qui bénéficient sur le terrain de la protection et du soutien des opérations de l'ONU. À l'égard de la RD Congo, où le président Joseph Kabila est toujours au pouvoir, en dépit d'un mandat expiré depuis fin 2016, les États-Unis se montrent de plus en plus critiques. Ils ont dénoncé l'élection récente de ce pays au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et à propos du Soudan du Sud, Nikki Haley a affirmé à l'ONU qu'une récente et nouvelle initiative de paix venue de pays de la région était la dernière chance pour les autorités de Djouba d'en finir avec la guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts. Sa tournée prendra fin samedi prochain.
L'armée égyptienne annonce avoir détruit 8 véhicules tout-terrain soupçonnés de transporter des armes de contrebande depuis la Libye. C'est dans ce contexte que le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi est en visite à Paris. La France, qui entretient d'excellentes relations commerciales et sécuritaires avec l'Égypte, vue comme un rempart contre le terrorisme, a promis que la situation en matière de droits de l'homme sera abordée. Le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, a affirmé que le dossier nucléaire nord-coréen sera au cœur de sa tournée asiatique cette semaine. Le président Donald Trump, lui aussi, prépare une visite en Asie. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Aux Philippines, où il doit rencontrer ses homologues d'Asie du Sud-Est, James Mattis va évoquer la crise régionale en matière de sécurité. Le secrétaire américain à la Défense va aussi participer à une rencontre tripartite avec ses homologues japonais et sud-coréens avant de se rendre à Séoul pour un sommet annuel. Le président Donald Trump fera en novembre sa première tournée en Asie avec une escale remarquée en Corée du Sud. Dimanche, il a réaffirmé que les États-Unis sont préparés à toute éventualité face à la Corée du Nord. Les 10 ministres de la Défense de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, ont exhorté Pyongyang à respecter ses obligations. Les Nations Unies ont appelé la Corée du Nord à renoncer à ses programmes balistiques et nucléaires. Les tensions sont montées d'un cran dans la péninsule coréenne depuis que Pyongyang a réalisé un 6e essai nucléaire et 2 tirs de missiles. Le climat s'est dégradé avec les déclarations belliqueuses entre Donald Trump et Kim Jong-un.
4 membres des forces populaires burundaises ont été arrêtés samedi en Tanzanie et conduits dans la province de Muyinga, au nord-est du Burundi. Parmi eux, le président et le vice-président de ce mouvement rebelle. Les autorités tanzaniennes confirment ces arrestations. Depuis Bujumbura, le point avec notre correspondant Christophe Nkurunziza.
Le général-major Jérémy Niranyibagira, président des forces populaires burundaises, un mouvement rebelle, et le général Edouard Nshimirimana, son vice-président, ont été arrêtés samedi et conduits dimanche soir dans la province de Muyinga, au nord-est du Burundi. Ces informations ont été confirmées par les autorités tanzaniennes qui indiquent que l'échange des prisonniers ou de malfaiteurs recherchés existe depuis plusieurs années. Cette arrestation conjointe de 4 membres des forces populaires du Burundi, dont une femme, est aussi confirmée par le porte-parole de ce mouvement, le colonel Adolphe Maniraki, qui affirme que ces militaires rebelles étaient partis en Tanzanie, mais a perdu leur contact depuis samedi. Le colonel Adolphe Manirakiza parle au conditionnel que ses membres des forces populaires burundaises auraient été arrêtés et conduits vers une destination inconnue. Les forces populaires burundaises sont composées majoritairement par des militaires des forces armées burundaises avant leur fusion avec les partis et mouvements politiques armés au moment de la signature de l'accord de paix et de réconciliation en 2000 à Arusha en Tanzanie. L'armée et la police burundaise n'ont pas encore réagi. Christophe Nkurunziza, VOA Afrique, Bujumbura.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, Jacques Aristide, La Minute Éco.
Le ministre ivoirien des Transports appelle les compagnies aériennes africaines à baisser leurs tarifs jugés trop chers afin de participer à la croissance du secteur où la part du continent reste faible. Amadou Koné s'exprimait samedi à l'ouverture de l'Assemblée générale de l'Association des transporteurs aériens francophones qui regroupe 16 compagnies. D'après le ministre, il est moins cher d'aller d'Abidjan à Paris, quelle que soit la compagnie, que d'aller d'Abidjan à Dakar. En marge de cette rencontre, Air Côte d'Ivoire et son partenaire Air France ont signé un mémorandum pour permettre à Air Côte d'Ivoire de vendre des billets sur Paris tout en n'étant pas l'opérateur. La Banque africaine de développement annonce la création d'un fonds de 250 000 dollars pour les jeunes agriculteurs. Lauréat du prix mondial de l'alimentation, le président de la BAD, le Nigérian Akin Wumi Adesina, s'est engagé à consacrer la dotation financière qui accompagne le prix à la création de ce fonds. Sous Adesina, la BAD œuvre à l'accélération du développement agricole à travers sa stratégie Nourrir l'Afrique avec un investissement de 24 milliards de dollars sur les 10 prochaines années. Plus d'un milliard de personnes sans existence officielle, faute de preuves d'identité, pour la plupart en Afrique et en Asie, selon la Banque mondiale. Parmi ces personnes dites invisibles, plus d'un tiers sont des enfants dont la naissance n'a pas été enregistrée, comme en Somalie, au Liberia ou en Éthiopie. Du coup, des millions d'enfants d'Afrique sont privés de services de santé et d'éducation. Diverses organisations tentent de combattre ce fléau en utilisant notamment les nouvelles technologies.
L'info sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Meilleur joueur FIFA de la saison dernière, Ronaldo favori.
Et oui, la FIFA qui va dévoiler ce soir à Londres ses prix des meilleurs joueurs, entraîneurs et buts de l'année. Une récompense pour le meilleur joueur sans doute attribuée à la star du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, face à Messi et Neymar. CR7 a poursuivi son insatiable moisson de titres la saison dernière. Il a remporté à nouveau la Ligue des Champions, la 12e de l'histoire du Real. Il a enlevé le très relevé championnat d'Espagne. On se rappelle qu'en finale de la Ligue des Champions, Ronaldo s'est offert le doublé contre la Juventus Turin. Il a également fini meilleur buteur du tournoi juste devant Lionel Messi. Il peut donc légitimement rafler ce titre ainsi que le prochain Ballon d'Or. Pour désigner le meilleur joueur de l'année, on rappelle que le système d'attribution est composé d'un panel de votants avec des sélectionneurs, des capitaines d'équipe nationale, des journalistes et des fans.
Et Zidane favori pour le titre de meilleur entraîneur.
Oui, l'entraîneur du Real Madrid a de très fortes chances de décrocher le prix du meilleur entraîneur. Il avait terminé en deuxième position l'année dernière derrière Claudio Ranieri. Zidane, qui a fêté ce week-end son 100e match sur le banc du Real, a fait de l'équipe merengue une machine à gagner les trophées depuis sa nomination en janvier 2016. Tenez-vous bien, deux Ligues des Champions d'affilée, une Liga, un Mondial des clubs, deux Supercoupes d'Europe et une Supercoupe d'Espagne, soit 7 titres en moins de 2 ans.
Everton se sépare de son entraîneur ?
Après une première saison prometteuse, l'entraîneur Ronald Koeman a été remercié par Everton au lendemain de la gifle 5-2 infligée à domicile par Arsenal. Le technicien néerlandais de 54 ans, on se rappelle, avait conduit le club à la 7e place la saison dernière, ce qui lui avait permis de retrouver l'Europe.
Et enfin la NBA, championnat de basket nord-américain.
Minnesota a infligé à l'un des prétendants au titre Oklahoma City sa deuxième défaite en 3 matchs, 113-115. Dans la conférence Ouest toujours, les Lakers de Los Angeles se sont inclinés pour la deuxième fois à domicile au Staples Center. C'est la Nouvelle-Orléans qui l'emporte 119 à 112. Autre résultat, la victoire de Brooklyn contre Atlanta 116 à 104. Enfin, on mentionne que Phoenix a limogé son entraîneur après 3 défaites et autant de matchs en NBA. C'est du jamais vu. Jamais une équipe NBA ne s'était séparée de son entraîneur aussitôt dans la saison.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Diriek. Deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. Nikki Haley, la représentante des États-Unis à l'ONU, effectue une tournée en Afrique. Elle se rend d'abord en Éthiopie, qui abrite le siège de l'Union africaine, puis au Soudan du Sud, le plus jeune pays ravagé par la guerre. Elle terminera sa visite en République démocratique du Congo, qui traverse une crise politique aiguë et des conflits dans plusieurs provinces. Pour un éclairage, Kabadou a joint Armand Cohen, ancien sous-secrétaire d'État aux affaires africaines.
Le président Trump a bien reconnu qu'il y a des crises. Je crois qu'il a utilisé le mot crise dans certains pays. Et Mme Haley connaît bien l'Afrique déjà parce que depuis son arrivée à l'ONU, elle a traité beaucoup de problèmes africains. Donc je crois que c'est une très bonne chose.
Alors, est-ce qu'on peut parler de politique africaine de Donald Trump?
Oh, c'est un peu tôt. Il n'a pas fait des déclarations, il n'a pas parlé de l'Afrique dans ses discours. Mais je crois qu'à mon avis, je crois qu'il a continué la politique d'Obama. C'est-à-dire, nous n'avons pas des problèmes stratégiques en Afrique, c'est surtout voir les Africains avancer dans le développement économique. Et quand il y a des crises qui empêchent ça, peut-être nous pouvons contribuer. Je crois que, et aussi certains programmes d'Obama comme Power Africa, avancer l'électricité en Afrique, Feed the Future, c'est-à-dire amener la technologie pour l'agriculture, il va continuer ces programmes. Donc je crois que c'est la continuation d'Obama jusqu'à maintenant.
Pourquoi, selon vous, nous n'avons pas encore connaissance d'un nouveau nom, d'un nouveau secrétaire d'État aux affaires africaines?
Président Trump a bien nommé quelqu'un, c'est le docteur Peter Pham, qui est un des grands experts sur les affaires africaines partout aux États-Unis. Il dirige un programme dans l'Atlantic Council. C'est une organisation qui suit la politique étrangère des États-Unis. Sa nomination est bloquée par un sénateur à cause du problème du Sahara oriental. Il fait un peu de chantage parce qu'il est contre la politique américaine. C'est le sénateur Inhofe de Oklahoma. Comme ça va durer un peu, le président Trump a nommé un intérim. C'est l'ambassadeur Donald Yamamoto, qui a une longue expérience en Afrique. Il était ambassadeur en Éthiopie. Il était dans beaucoup d'ambassades des États-Unis. Je crois que pour le moment, le bureau africain du département d'État est en bonne main.
Voilà, c'était Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État aux affaires africaines.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retour ce soir sur les 13 gendarmes tués samedi dans le sud-ouest du Niger. L'attaque a visé la brigade de gendarmerie d'Ayoro dans la région de Tillabéri, près de la frontière avec le Mali. Comme pour l'embuscade du 4 octobre, dans la même région, cette attaque n'a pas été revendiquée. Bagessikoura a joint à Niamey Moussa Aksar, directeur du journal d'événements et spécialiste des questions de terrorisme.
Ce sont des assaillants qui sont venus du Mali voisin, qui ont attaqué pour une seconde fois la brigade de gendarmerie d'Ayoro.
Alors, vous dites une seconde fois, hein, parce qu'il y a déjà eu une attaque en mai contre cette même gendarmerie.
Absolument. Mais dernier, il y a eu une attaque où les mêmes éléments sont venus récupérer du matériel, des véhicules et des armes. Et c'est avec ces mêmes armes, apparemment, qu'ils sont revenus pour perpétrer cette nouvelle attaque.
Et ce qui donc laisse croire que des mesures n'ont pas été prises pour parer à toute éventualité.
Absolument. Apparemment, il y a une défaillance dans le système. Donc, comment se fait-il que des éléments qui ont attaqué il y a seulement au moins 3 mois de cela une brigade et que des mesures ne soient pas prises pour vraiment les anéantir quand ils reviendront. Mais ce qui est sûr, ici au Niger, des mesures sont en train d'être prises. Les autorités vont revoir leur stratégie de défense de ces unités qui sont le long de la frontière malienne.
Ce qui est encore plus troublant, hein, c'est que c'est dans cette région de Tillabéri où il y a eu déjà une attaque le 4 octobre où 8 soldats américains et nigériens ont été tués.
Écoutez, il y a des hommes, il y a des éléments qui sont le long de cette frontière et un dispositif qui a été mis en place, mais apparemment qui n'est pas réactif.
Est-ce qu'on est parvenu à faire le lien entre les assaillants qui ont perpétré cette dernière attaque et l'attaque de Tongo Tongo le 4 octobre qui a visé notamment des soldats américains et nigériens?
Non, il n'y a pas eu. On a écouté un peu par-ci, par-là les autorités qui n'ont pas fait de lien entre les attaques. Mais nous, selon notre analyse, ce sont des éléments qui viennent du Mali, qui connaissent parfaitement le terrain, qui ont des complices au sein de ces populations-là parce que les renseignements ont failli.
Que ce soit l'attaque du 4 octobre ou celle de ce samedi, il n'y a pas eu de revendication.
Il n'y a pas eu de revendication comme plusieurs autres, des dizaines d'autres attaques qu'il y a eu dans cette zone-là. On parle d'une quarantaine d'attaques qui n'ont pas été revendiquées. Mais le mode opératoire semble être celui de Adnan El-Sahraoui qui essaie d'occuper toute cette zone-là en essayant d'obtriner les communautés qui ont des problèmes, comme je le disais tantôt, de gouvernance et surtout de pauvreté.
Moussa Aksar, directeur du journal L'Événement à Niamey.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Découverte de la peste porcine dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est la psychose qui s'empare des consommateurs et des commerçants. Le gouvernement a mis en place des mesures d'urgence. Le reportage de notre correspondante à Abidjan, Narita Namasté.
Nous sommes dans le restaurant de Jean à Cocody, réputé pour sa spécialité dans ses menus faits à base de viande de porc. L'ambiance n'est pas pareille comme d'habitude. Chez Jean affiche moins de monde. Une situation consécutive à la découverte d'un foyer de peste dans le nord de la Côte d'Ivoire, où plus de 3000 bêtes sont déjà mortes du virus de la peste porcine africaine.
Nous, de toutes les façons, nos bêtes sont vérifiées, certifiées. Voilà. Donc, avant d'abattre, bien sûr, il y a le vétérinaire qui fait les soins, tout et tout. Donc, sans problème. Voilà.
La psychose et la peste porcine gagnent du terrain dans la capitale économique ivoirienne. Malgré le message des autorités qui rassure que les autres régions du pays ne sont pas affectées par cette épidémie. En attendant de clarifier les choses, les commerçants, eux, enregistrent une baisse de leur chiffre d'affaires.
À vrai dire, ça a baissé parce que parfois nous venons avec une certaine quantité de morceaux qui finissent à une certaine heure, voilà, et qui n'est pas le cas ces 2 jours-là.
Une nouvelle qui se propage très rapidement, mais d'autres, malgré tout, préfèrent ne pas abandonner leurs habitudes alimentaires, comme c'est le cas de Léon Kassi.
En tout cas, manger la viande de porc, si ça doit me coûter un peu de grippe porcine, ça vaut le coup. C'est doux, c'est bon, je suis rassasié, je suis content. Bon, un petit maladie à côté, on doit forcément mourir de quelque chose.
Comme Pierre, certains n'avaient pas l'information. Ce qui justifie sa présence dans ce restaurant en train de consommer du porc, appelé ici viande de gabichou.
Et donc là, avant de discuter avec vous, j'étais pas au courant qu'il y avait apparemment une crise. Mais j'étais pas au courant. Écoutez, en tout cas, ce que j'ai mangé ce soir, c'était très très bon. Et je découvre ça en venant de France.
Des mesures exceptionnelles ont été prises par les autorités ivoiriennes dans la région touchée par cette épidémie. Les acteurs de cette filière essaient de rassurer les éleveurs et aussi les consommateurs gagnés par la psychose.
Hier, à partir de 6h, moi-même, j'ai commencé à recevoir des coups de fil concernant les éleveurs que nous suivons. Vraiment, ça a été un boom parce qu'on ne s'attendait pas à telle nouvelle dit que la Côte d'Ivoire est menacée de peste porcine. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire, c'est seulement qu'une ville, un département qui est concerné. Et donc, nous, on a essayé de rassurer nos éleveurs pour montrer qu'il n'y a pas de mort au niveau d'Abidjan. Même à Korogo, il n'y a pas de mort. et donc à plus forte raison Abidjan. Et donc nous rassurons nos éleveurs, surtout les commerçants, qui aujourd'hui on a reçu certains qui ont eu une baisse de chiffre d'affaires.
La Côte d'Ivoire compte plus de 50 000 éleveurs de porcs. En 1996, l'épidémie de la peste porcine avait touché les interdits du cheptel porcine du pays et occasionné l'abattage de plus de 150 000 bêtes. Les consommateurs de la viande des gabichos s'en souviennent sûrement et préfèrent rester sur leur garde. Narita Namasté à Abidjan, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Et nous partons au Bénin pour parler des morgues. Insalubrité, corps entassés, des pratiques qui font scandale. De Cotonou, notre correspondante Ginette Fleur Adandé nous en dit plus.
Les morgues qui jouissent d'une bonne salubrité peuvent se compter du bout des doigts. Même celle du Centre National Hospitalier et Universitaire de Cotonou est dans un état d'insalubrité avancée. Le sujet laisse insensible plus d'un. Personne ne veut fourrer son nez dans un commerce qui nourrit bien de familles. C'est dans la plus grande discrétion que nous avons fait le tour de quelques morgues avec tous les risques que cela comporte. Certaines ont même opté pour des corps séchés au soleil en lieu et place des normes établies. Dans une morgue située à quelques kilomètres de Cotonou, le morguier principal s'est lancé dans un discours qui montre qu'il désapprouve la situation.
Vous devez voir les conditions dans lesquelles ils ont mis les corps. C'est une véritable catastrophe.
Regardez le bas, déjà l'hygiène du bas. Le corps qui est dans l'eau trempé.
Mais les corps qui sont dans l'eau, ils descendent.
Toi, regarde à ta gauche.
Il n'y a pas de lumière.
C'est des stocks de sardines. Il n'est plus des corps.
Au Bénin, les morgues prennent l'allure de maisons ou de poissonneries abandonnées auxquelles on a donné quelques touches d'humanité pour accueillir les morts. Mais là où le bas blesse, c'est l'insalubrité qui règne. Dans ces morgues, le manque d'équipement, de formol pouvant aider à la conservation des cadavres. Et le drame reste entier lorsque plus de 8 cadavres se retrouvent dans un seul casier. Meda Koudébi est celui qui tire depuis quelque temps sur la sonnette d'alarme.
La situation des morgues au Bénin, c'est toute une catastrophe et pratiquement rien n'a été respecté. Il n'y a pas de normes. Et comme le dit les documents, ils ont dit que tout se fait par jurisprudence. Pour vous donner un exemple très simple, et des morgues normalement qui sont légalement autorisées, voici dans quelles conditions les corps de nos parents défunts sont conservés, sans parler des usines de la morue humaine où les corps sont séchés au soleil.
Mais que pensent les Béninois sur la gestion des morgues? Silence radio. Les menaces que reçoivent Meda Koudébi et la séquestration dont ont été victimes certains membres de sa famille contraignent les populations à se taire et à laisser le mal ronger le secteur. Cet agent des services d'hygiène qui a préféré rester dans l'anonymat explique que le drame des morgues au Bénin se joue avec la complicité des politiques pour la plupart propriétaire de ces lieux.
Personne ne veut collaborer avec les morts. Personne ne veut savoir dans quelles conditions ils vivent. Et aujourd'hui, je mets au défi tous les chefs d'État béninois. Je veux qu'un seul président béninois puisse me dire que volontairement il s'est levé un matin et il a décidé de visiter une morgue. Il ne faut pas qu'ils oublient que les gens, avant d'aller à la morgue, ont été des citoyens béninois, ont été membres de l'un ou l'autre des partis politiques qui ont voté pour eux pour qu'ils soient à ce niveau. Au moins par reconnaissance. Il y a même des responsables qui se sont mis en colère pour dire, vous êtes en train de vouloir toucher à notre porte-monnaie. Et sur ce plan, nos revenus, on ne va pas vous pardonner.
Aborder le sujet lié au scandale des morgues vous offre en partie à ceux qui y trouvent leur compte. Car en dehors de l'insalubrité et de l'effectif pléthorique, il y a malheureusement le trafic d'organes de mort et de ceux qui, dans le secteur, en ont jus de morgue et qui permet à certains de faire des rituels de prospérité et de protection. Il y a quelques mois, l'État a ordonné le désengorgement de certaines morgues avec près de 1000 corps non réclamés enterrés dans une fosse commune. Mais cela ne règle pas encore le problème qui exige une volonté politique et un peu d'humanisme. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. 4-0. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition, à la mise en onde Joselle Morissin, Morgan Guiriec à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24h24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM. Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.